Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses, il est grand temps.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 90 FM.
Et vous écoutez Radio B, bienvenue.
Nous sommes la classe de 4e B du collège de LUP. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'alimentation et les déchets.
Comment pouvons-nous réduire les déchets alimentaires? Que deviennent nos restes de repas? Comment mieux consommer pour préserver l'environnement?
Pour commencer, Thaïs et moi avons posé des questions aux adultes qu'on croise tous les jours au sein de l'administration du collège.
À votre avis, combien de kilos de nourriture un Français gaspille-t-il par an?
J'ai pas d'idée précise, mais c'est plusieurs dizaines de kilos, je dirais.
Alors j'avais pas d'idée précise, mais je pense que c'est plusieurs kilos, voire plusieurs dizaines peut-être, je sais pas.
Ouais, je dirais 100 kilos.
500 kilos.
500 kilos de nourriture par an?
Entre 5 kilos, 5 et 6 kilos.
58 kilos dont 24 kilos qui sont comestibles. Que pensez-vous de ce chiffre?
Il est énorme, énorme, ça fait peur.
Je trouve que c'est beaucoup et j'espère qu'on pourrait en faire quelque chose... récupérer cette nourriture pour la redonner ou pour l'utiliser pour autre chose dans l'agriculture ou...
Mais c'est encore trop.
Je pense qu'on a un gros effort à faire sur les déchets alimentaires et travailler encore ensemble sur ce tri sélectif et l'anti-gaspillage.
Je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage quand même. Si les gens faisaient un petit peu attention, on pourrait réaliser des économies sur l'alimentaire. Et pouvoir donner aux associations qui en ont besoin.
Selon vous, que pouvons-nous faire pour réduire ce chiffre?
Sensibiliser déjà tout le monde, et en particulier les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire vous. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à la restauration scolaire. Voilà.
Faire en sorte d'avoir une gestion de la nourriture dans les foyers qui soit un peu plus rationnelle, on va dire.
De la prévention, je crois. Puis, à titre individuel, ne pas aller faire les courses tant qu'il y a encore des choses à manger au frigo.
C'est plus les particuliers qui doivent faire le tri, de faire attention.
Il faudrait que chaque citoyen prenne conscience de ce gaspillage. Il y en a qui ne peuvent pas manger alors qu'il y en a qui gaspillent.
Eh bien déjà, prendre conscience de ce qu'on achète. Acheter chez les petits producteurs du coin, peut-être acheter moins, mais mieux.
Est-ce que vous jetez de la nourriture?
Je jette, oui, effectivement, l'alimentation, des restes, mais j'essaye d'optimiser au maximum la nourriture que j'achète.
Malheureusement, ça m'arrive.
J'essaye d'en jeter rarement. Bon, après, les déchets alimentaires, je les donne aux poules. Des personnes qui sont en appartement ne peuvent pas avoir des poules. Donc, en fait, il y aura peut-être des actions à mener pour ceux qui habitent dans des immeubles.
Mais non, parce qu'on a des poules, on a des chiens. Donc, tout ce qu'on ne mange pas, et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais tout ce qu'on ne mange pas, on leur donne.
Intéressant d'entendre leur avis.
Et maintenant, on accueille Arik et Nathan.
Ils nous présentent des chiffres sur le gaspillage alimentaire.
Bonjour, je m'appelle Nathan et voici mon collègue Arik.
Bonjour, je suis Arik et nous allons vous parler du chiffre des gaspillages en 2022. Alors Nathan, peux-tu nous donner des chiffres pour le gaspillage en France en 2022?
En 2022, 9,4 millions de tonnes de déchets ont été produits en France sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Les ménages contribuent de manière conséquente aux déchets alimentaires en France. Ils génèrent à eux seuls 42% des déchets totaux, mais il n'y a pas que les ménages qui produisent des déchets. N'est-ce pas Nathan?
Non, les industries agroalimentaires produisent 25% des déchets alimentaires totaux. La restauration a généré à elle seule 12% de déchets alimentaires. Pour remédier à ce problème, l'État a eu une idée. Arik, je te laisse expliquer celle-ci.
Pour remédier à ce problème, la Commission européenne a mis en place un cadre de surveillance des niveaux des déchets alimentaires.
Et depuis 2022, les chiffres ont-ils augmenté ou diminué?
Alors depuis 2022, ils ont diminué de 0,7 millions de tonnes en 2024. Il faut donc continuer ainsi.
Merci, Harry.
Merci à toi, Nathan, et merci aux auditeurs.
Maintenant qu'on sait à quel point c'est un problème, écoutons comment cela se passe dans notre cantine.
Marie-Lou et moi ont rencontré M. Morel, le chef de la restauration scolaire du collège.
Les repas sont-ils préparés sur place ou livrés? Quel impact cela a-t-il sur la production des déchets?
Tous les repas sont fabriqués sur place. Et puis l'impact que ça peut avoir sur les déchets, on a forcément un petit peu plus d'emballage. et puis des déchets qu'on pourrait recycler via un compost parce qu'on épluche nos légumes. Mais pour l'instant, il n'y a rien de mis en place.
Les produits que vous utilisez proviennent-ils d'agriculteurs locaux ou de circuits courts? Si oui, cela impacte-t-il les déchets produits?
Alors on a à peu près 60% de nos fournisseurs qui sont en produits locaux. Et ça n'a pas d'impact plus qu'un autre d'avoir en fait des fournisseurs qui sont locaux, quoi. Même au contraire, il y a moins de transport, donc c'est plus intéressant d'avoir des fournisseurs locaux.
Comment prévoyez-vous les quantités pour éviter les surplus?
Eh bien, pour éviter les surplus, on crée des fiches techniques. Donc une fiche technique, c'est une recette en fait. Et puis on la modifie par rapport à ce que vous avez mangé ou ce qu'on aura vu en déchets après votre passage. Et puis ce qui va nous rester dans les plats après le service. Et après on modifie. Et du coup, on s'adapte.
La plupart du temps, vous arrivez à utiliser la quantité de nourriture juste ou il y a inévitablement du gaspillage?
Alors, il y a inévitablement du gaspillage, surtout quand c'est des épinards. Parce que, ben voilà, on vous les sert, mais vous ne les mangez pas forcément. Et puis après, ben, il faut toujours qu'on en ait assez pour être sûr de pouvoir servir tout le monde. Et puis, on a un effectif qui nous est donné, mais c'est approximatif, enfin, à 40 ou 50 couverts près. On fait 700 couverts, donc il faut quand même qu'on se laisse une petite marge.
Que deviennent les aliments qui ne sont pas consommés?
Alors pour ceux qui n'ont pas été servis et qui sont restés dans une température adéquate, ceux-là, on va pouvoir les repasser si on a un service tout de suite le lendemain. C'est-à-dire que les aliments du lundi, s'ils n'ont pas été servis et pas touchés et pas sortis, on va pouvoir les réutiliser pour le mardi. Par contre, ceux du mardi, on ne pourra pas les réutiliser le jeudi.
Existe-t-il un système de recyclage ou de valorisation des déchets alimentaires?
Eh bien, pas encore. Et puis, il faudra qu'on y travaille sûrement avec les élèves éco-responsables. Il va falloir que l'établissement se mette à y travailler, oui.
En général, quelle quantité de nourriture est jetée chaque jour à la cantine?
Alors, pour l'instant, on n'a pas fait de pesée de nos déchets. Et ça va rentrer dans cette démarche, un peu une démarche qualité par rapport à justement toutes ces pertes. Et ça va commencer par là.
Avez-vous des chiffres pour comparer avec d'autres établissements?
Alors on a des chiffres, mais c'est surtout au niveau des normes nationales. Et puis ce qui va aussi beaucoup nous guider, c'est notre prix de revient journalier. Donc on ne dépasse pas le seuil à Morvel. Et donc ça, c'est un bon indicateur quand même.
Les élèves jouent-ils un rôle dans la réduction des déchets alimentaires? Par exemple, en choisissant leurs portions ou en participant à des initiatives écologiques?
Évidemment qu'il faut que les élèves soient les principaux acteurs de cet anti-gaspillage. Ça va de soi, de prendre un petit peu moins de pain. Vous pouvez vous resservir en pain. Mais justement, avant, on pouvait prendre 3 tranches de pain, mais on en balançait beaucoup. Là, maintenant, on en jette un peu moins.
Comment gérez-vous les emballages des produits alimentaires? Essayez-vous de privilégier les matériaux recyclables ou biodégradables?
On fait attention, ouais, à tout ce qui est emballage pour justement limiter en fait, tout ce qui va se retrouver dans les poubelles jaunes et puis tout ce qui est emballé dans du plastique ou du carton. C'est pour ça qu'on a mis là en place les yaourts qu'on met dans des petits pots maintenant, les yaourts à boire. Ça limite un petit peu les pots de yaourts qu'on jette inutilement.
Quelles seraient selon vous des solutions innovantes ou efficaces pour encore mieux limiter les déchets à la cantine?
Alors il y a beaucoup de pistes d'amélioration, mais pour ça il faut qu'on le travaille ensemble. Nous on n'est que 4 en cuisine et puis 5 services généraux à la plonge. Mais en même temps, on est 700 personnes à manger sur place et c'est un peu l'affaire de tous.
Merci pour cette explication. Mais une fois que ces déchets quittent la cantine, que deviennent-ils?
Loris et Ricardo nous présentent une solution maintenant bien connue, le compostage.
Bonjour, je suis Ricardo.
Et moi, c'est Loris.
Nous présentons l'écologie avec l'alimentation et l'emballage.
La loi sur le compostage, l'alimentation et les emballages, le sans-emballage et les emballages compostables.
Loris, existe-t-il une loi sur le compostage?
Bien sûr, la loi sur l'anti-gaspillage a été créée en 2020. Elle rend le compostage obligatoire pour tous les Français à partir du 1er janvier 2024. Cette loi cherche à diminuer les déchets ménagers et à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. J'ai une question, Ricardo. C'est quoi l'alimentation et l'emballage?
C'est très simple lorsqu'on y pense. Un emballage est un objet qui permet de contenir et protéger des aliments afin qu'ils restent consommables. Les aliments sont emballés durant le transport et le stockage.
Laurie, attends. Est-ce que les emballages ont-ils une répercussion sur l'environnement ? Si oui, lesquels ?
Les emballages ont bel et bien un impact sur l'écologie. Ils laissent une empreinte écologique considérable qui affecte les écosystèmes terrestres et marins. Ils contribuent au changement climatique et épuisent les ressources naturelles. Ils nous empoisonnent. Et maintenant, je finis de répondre à la question précédente. L'alimentation est un ensemble d'aliments qui permet de s'alimenter afin de maintenir de l'énergie. Par exemple, les légumes, les féculents, les œufs, le poisson, la viande et les fruits. Loris, j'ai besoin d'informations. C'est quoi le suremballage ?
Le suremballage, c'est lorsqu'un aliment a été emballé par plusieurs emballages dans un sachet. Exemple, les pains au chocolat entourés de plastique avec un autre sachet au-dessus de ce plastique. Peux-tu me dire l'antonyme du suremballage nommé le sans-emballage ? Définis-le pour nous.
Bien sûr. Le sans-emballage, c'est lorsqu'on achète des produits avec aucun emballage, ce qui implique à venir au magasin avec ses propres contenants. Deux types de produits sont déjà fortement représentés dans les rayons vrac, les produits d'entretien, les lessives et les produits cosmétiques. J'ai une question que tout le monde devrait savoir. Comment on fait des emballages compostables ?
Un emballage alimentaire compostable peut être fabriqué de plastique, de papier, de carton ou de matériaux biosourcés. Exemple, la canne à sucre, il se décompose dans certaines conditions. Température, oxygène, humidité contrôlée. Les emballages compostables sont bien car nous pouvons les recycler afin d'éviter de les jeter dans la nature.
Le compostage est une solution individuelle, mais que fait la collectivité pour réduire les déchets ?
Pour le savoir, Aileen et Sidonie ont rencontré Jean-Luc Roux, un élu de la collectivité en charge des déchets.
En tant qu'élu, pourquoi avez-vous choisi de vous engager pour l'écologie et déchets de Bourg-en-Bresse ?
Depuis que je suis à Bourg-en-Bresse, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, je milite dans des associations de solidarité internationale et en faveur de l'écologie. C'est un chemin qui m'a conduit, effectivement, à m'engager dans la politique locale.
Que faites-vous des déchets de la ville après leur utilisation ?
Je suis le conseiller délégué de Grand Bourg Agglomération, donc je ne m'occupe pas uniquement des déchets de la ville de Bourg-en-Bresse, je m'occupe des déchets de tout le territoire de Grand Bourg. D'abord, on les collecte, on les ramasse, et ensuite, une fois que tous ces déchets sont rassemblés, ça dépend de la nature des déchets. Quand ce sont des ordures ménagères, eh bien ça part à Viria, sur un site qui s'appelle le site d'Organum. C'est un syndicat qui traite de tous ces déchets. Les ordures ménagères arrivent dans une usine et ensuite elles sont triées, notamment pour extraire des ordures ménagères, tout ce qu'on appelle des biodéchets, des déchets de cuisine, les épluchures des légumes, les peaux de bananes, les salades, les morceaux de pain qui sont rassis. On arrive à valoriser cette part de déchets, d'abord pour en faire un peu d'énergie et ensuite pour retourner tout ça à la terre sous la forme de compostage. L'autre partie des déchets, c'est les déchets qu'on a ramassés dans la poubelle jaune, c'est-à-dire les emballages. Ça part dans une autre usine qui est située à Lons-le-Saunier. Et là, tous ces emballages, plastique, métaux, papier, carton, tout ça, c'est trié pour être ensuite recyclé.
Combien de tonnes de déchets sont jetées environ chaque année ?
Alors, on collecte, nous, environ 70 000 tonnes de déchets chaque année. C'est un peu plus de 500 kilos par habitant. Mais ça comprend aussi, et ça c'est une très grosse partie, ce que les gens amènent dans les déchetteries.
Quelles sont les conséquences environnementales ?
Tous les déchets sont polluants, donc il faut qu'on essaye de limiter au maximum ces pollutions. Donc le plastique par exemple, ben, quand ça se retrouve dans la nature ou dans les rivières, ben, vous le savez, ça va ensuite dans la mer, ça se dégrade, ça devient des tout petits morceaux, ce qu'on appelle les nanoplastiques, et ensuite les poissons avalent tout ça, les tortues, ben, vous connaissez un petit peu tout ce système qui fait que nous sommes envahis de plastique. Donc le plastique est très polluant, mais il y a d'autres déchets. Je pense aux piles, les batteries des téléphones par exemple. Dans la mesure du possible, il faut essayer de réduire le nombre de déchets qu'on produit. Et puis quand on jette, eh ben, qu'on jette correctement les choses pour qu'on puisse ensuite réduire les impacts de pollution sur l'environnement.
Quel impact cela a ?
Les déchets sont émetteurs de gaz à effet de serre. D'abord parce que ce sont des objets qu'on a fabriqués dans des usines, puis on les a transportés. Parfois, on brûle les déchets dans certains territoires. Nous, ici, dans le Grand Bourg Agglomération, on n'a pas d'incinérateur. Donc, pour l'instant, on ne brûle pas nos déchets, mais on les enfouit, ce qui n'est pas bien mieux parce qu'on les met dans des grands trous, dans des grands casiers, et ça aussi, ça génère des pollutions.
Des composts ont-ils été mis en place dans la ville ?
Oui, ça c'est vraiment la belle idée de ces dernières années, c'est de développer le compostage. Alors il y a une loi, c'est la loi AGEC, c'est une loi sur l'économie circulaire, anti-gaspillage. Cette loi prévoit qu'on doit mieux trier ce que j'appelais tout à l'heure les biodéchets, c'est-à-dire ces déchets qui peuvent retourner à la terre sous forme de compost. Sur le territoire de Grand-Bourg Agglomération, nous proposons à tous les habitants, pour 25 euros, d'acquérir un composteur.
Que pensez-vous du guide du tri ?
J'en pense que du bien. On l'améliore d'année en année. Ce guide de tri a été distribué à tous les habitants des communes de l'agglo. Ce guide de tri, il aide les habitants à se souvenir des bons gestes de tri.
Avez-vous mis en place des déchetteries dans la ville ? Si oui, combien ?
Alors, des déchetteries sur le territoire de Grand-Bourg-l'Agglomération, il y en a 10.
Des actions sont-elles mises en place pour diminuer ces déchets auprès des particuliers ?
Depuis 2020, j'ai fait en sorte, avec mes collègues du bureau de l'agglomération, qu'on mette en place ce qu'on appelle un programme local de réduction des déchets. Ce programme local vise à réduire la quantité de déchets de 10% à l'horizon 2028. 10%, ça paraît pas beaucoup, mais réduire de 10%, c'est déjà une ambition relativement haute.
Comment les écoles et les élèves peuvent-ils participer à la réduction des déchets, notamment alimentaires ?
Vous avez déjà les déchets qui sont produits peut-être ici au self, vous devez avoir une cantine. S'il y a de l'anti-gaspillage, déjà des actions qui sont menées, c'est super. Peut-être que vous pouvez encore les développer. Je ne sais pas si vous avez mis en place un composteur. Mais ça pourrait être aussi une idée. Il y a des espaces verts dans le collège, donc ça pourrait servir justement à entretenir les espaces verts. C'est vrai que informer les gens sur comment mieux trier, comment moins gaspiller et comment mieux ensuite gérer nos déchets et les traiter derrière, c'est déjà une super démarche.
On voit donc que plusieurs solutions existent.
On peut agir autrement en consommant différemment.
D'ailleurs, pour se repérer dans les produits, il existe des labels.
Loïc et Tony, bonjour.
Bonjour, je suis Tony.
Bonjour, je suis Loïc. Nous sommes des élèves du collège de Lup à Montrevel-en-Bresse. Nous allons vous parler des labels en agriculture.
Qu'est-ce qu'un label, Loïc ?
Un label atteste de l'origine et de la qualité d'un produit alimentaire. Il existe plusieurs niveaux au niveau européen.
As-tu des exemples de labels reconnus ?
Le premier label, AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est un label français créé en 1935. Il met en valeur les produits locaux. Il doit être fabriqué selon un savoir-faire traditionnel sur une zone graphique précise.
Mais le label AOP, appellation d'origine protégée, ne désigne pas la même chose ?
Ces deux labels ont le même rôle. L'AOP a été mis en place dans le but d'harmoniser les labels existants dans l'Union européenne. Depuis 2012, il prend la place du label AOC pour les produits laitiers et agroalimentaires. Seul le vin est autorisé à bénéficier de l'appellation AOC.
Si je comprends bien, l'AOC garantit et protège un produit sur le territoire français. L'AOP assure une protection européenne.
Exactement, Tony. Il y a également le label IGP, indication géographique protégée, celui aussi un label alimentaire officiel de l'Union européenne. Il identifie un produit agricole dont la qualité et la réputation est liée à son origine géographique.
La marque agriculture biologique AB fait-il partie des labels ?
Oui, c'est un label certifié. C'est une certification contrôlée par l'agence bio. Elle identifie des produits 100% biologiques au composé de 85% de produits agricoles bio.
On parle aussi du label rouge ?
En effet, le label rouge est un label national qui concerne les produits alimentaires, mais également les produits agricoles non alimentaires. Ces produits doivent respecter des cahiers des charges précis. Le label rouge met en avant la qualité supérieure par rapport aux autres produits similaires vendus.
Les produits labellisés sont-ils contrôlés ?
Des règlements stricts encadrent les labels alimentaires. En France, c'est l'INAO, Institut national de l'origine et de la qualité, qui est chargé de contrôler le label officiel.
Merci Loïc pour toutes ces précisions. Merci aux auditeurs pour votre écoute.
En complément des labels, nous allons parler des papiers avec emballage.
Évangeline et Anouk, c'est à vous.
Bonjour, je m'appelle Anouk.
Bonjour, je m'appelle Évangeline.
Nous allons vous parler des produits avec et sans emballage.
D'ailleurs, pourquoi utiliser des emballages alimentaires ?
Ils servent à protéger les denrées alimentaires et préserver leur qualité nutritive et gustative jusqu'à leur consommation.
Sont-ils toujours utiles ou pas ?
Oui, puisqu'ils protègent la nourriture des moisissures.
Mais quelles sont les trois sortes d'emballages alimentaires ?
Les emballages primaires, c'est le conditionnement. Les emballages secondaires, ils enveloppent les produits. Les emballages tertiaires, ils regroupent les produits à l'unité.
Existe-t-il des magasins proposant des produits en vrac ?
Merci de votre écoute.
Pour répondre à la question d'Évangeline, nous recevons Marie Lefebvre qui tient une boutique sans emballage.
On découvre comment fonctionne ce type de magasin et quels sont les conseils pour mieux consommer.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une boutique en vrac comme la vôtre ?
Alors, une boutique en vrac et en consigne comme la mienne, c'est une boutique qui propose toutes les courses du quotidien, mais du coup sans emballage. On va pouvoir venir acheter les produits du quotidien avec ses propres contenants et du coup les re-remplir.
Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir un magasin de ce type à Bourg-en-Bresse ?
J'ai choisi d'ouvrir un magasin vrac et consigne à Bourg-en-Bresse parce que du coup ça fait plus de 10 ans que moi j'essaye de réduire mes déchets au quotidien et du coup de protéger la nature. Donc ça m'est venu naturellement de me orienter et de vous proposer la même solution.
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre boutique ?
Alors, on va pouvoir trouver vraiment toutes les courses du quotidien, aussi bien de l'épicerie salée, des lentilles, de l'épicerie sucrée, des bonbons, de la farine, du café, des produits d'hygiène avec des dentifrices, des alternatives solides comme du shampoing solide également, et de l'hygiène aussi avec vraiment tout pour la maison. Des utilitous en plus des éponges, des brosses à vaisselle, pas mal de petites choses.
Comment ça se passe exactement pour les clients ?
Alors, les clients vont pouvoir venir avec leurs propres contenants. Ils vont venir vers moi si leurs contenants ne sont pas pesés pour que je puisse justement mettre la tare sous le contenant. On a tous des boîtes chez nous, on a tous même des tupperwares, des bocaux en verre. Voilà, faut pas se dire, il faut tout de suite que ça soit dans des super jolis bocaux. Parce qu'il y a un côté très visuel aussi. On veut qu'à la maison, ça soit tout bien propre, tout bien rangé, et parce qu'on attend quelque chose. En fait, l'idée, c'est de se réutiliser. Même les sachets café qui sont des fois avec des emballages un peu aluminium dedans, qui sont faits pour être hermétiques et pour compacter ton café, en fait, ça, simplement, tu peux juste le couper bien proprement au début et venir remettre le café dedans. Et si on vient avec les mains vides, il y a des contenants mis à disposition gratuitement dans l'épicerie.
Est-ce que les gens achètent plus souvent juste la quantité dont ils ont besoin avec ce système ?
C'est un changement d'habitude parce que justement on a l'habitude dans les commerces classiques à avoir des quantités imposées. Là au magasin il y a des balances donc on peut venir avec sa propre recette, pouvoir justement réaliser des recettes où il y a un grammage précis et tester des épices comme on n'a pas l'habitude.
Est-ce que vous voyez des changements dans les habitudes des clients depuis l'ouverture du magasin ?
Oui, je vois des belles évolutions. On commence par un premier produit. Au fur et à mesure, on s'oriente dans les autres rayons. On commence par notre produit favori. Et après, on passe en voyant qu'il y a d'autres produits à des courses plus conséquentes.
Selon vous, quels sont les principaux freins pour les gens qui hésitent à acheter en vrac ?
Ça va être se munir de contenants parce qu'on a souvent l'image que pour commencer le vrac, il faut acheter des contenants. Or, on peut réutiliser simplement ceux qu'on a à la maison. Il y a plein de petites astuces. Faire un petit sac en tissu fait à partir de vieux rideaux, je trouve ça super joli et super utile.
Et à la maison, que peut-on faire pour limiter les déchets liés à l'alimentation ?
Je pense qu'on peut commencer par déjà une phase d'observation, regarder notre produit favori, ce qui crée comme déchets, et du coup se dire, par exemple, ce paquet de pâtes, comment je vais pouvoir l'éviter dans ma poubelle et passer du coup dans des épiceries qui proposent d'autres solutions pour l'impacter.
Avez-vous une astuce personnelle pour mieux gérer nos restes de repas ou éviter de gaspiller ?
Je pense que la meilleure solution pour moi, c'est de créer des menus en avance et sur la semaine avec les produits de saison. Quand on a nos recettes, on peut justement savoir exactement ce qu'on a besoin pour la semaine et acheter en vrac. Par exemple, si on a besoin d'une recette avec 100 g de riz, on n'achète que les 100 g de riz.
Et enfin, avez-vous un message pour des jeunes comme nous qui veulent consommer autrement, réduire leurs déchets et protéger la planète ?
Eh bien, faire des petites émissions comme là aujourd'hui, interroger les personnes qui sont dans le milieu, aller voir les magasins et voir comment ça peut se passer. Et du coup, justement, s'orienter avec leurs parents pour voir ce qu'ils peuvent déjà faire actuellement dans leur maison, pour après leur avenir, dans leurs appartements et leurs années futures.
Merci à Thaïs et à Rick pour cette interview.
C'est intéressant de voir qu'on peut faire ses courses autrement.
Notre émission touche à sa fin.
On espère que vous avez appris plein de choses.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions.
Et surtout, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés.
À bientôt.
Sur les ondes de Radio B.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur ma terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!